Ça ne lui déplaisait pas, les bondieuseries, comme il les appelle en crachant de mépris par terre. Elle ferait bien, de temps en temps, une petite prière pour sa pauvre mère. Elle aussi aimait bien ça, aller à l'église, même si le latin, elle le répétait sans le comprendre. Ça apaise, le latin. On ne sait pas ce que ça raconte, mais c'est pas grave. C'est peut-être même mieux qu'on sache pas. Si les âmes des morts comprennent, c'est parfait, tant mieux pour elles. En attendant, c'est les vivants qui chantent, qui écoutent, qui ont besoin d'être consolés. Le visage fatigué de la bonne s'éclaire d'un grand sourire. Elle a découvert le secret des voix. La messe des morts fait du bien aux vivants. Le ciel vient de s'effondrer sur Alexandrine. Jamais elle n'aurait cru ça possible. Irène. Cette femme gâtée par le destin, un mari aimant, valide. Deux fils adorables, une histoire saine. Vu de loin, un idéal. Elle n'a jamais été jalouse du bonheur des autres. Elle reconnaît volontiers y avoir été peu attentive du temps où sa propre existence se déroulait sans heurts. Depuis qu'elle a pris un autre tour, Alexandrine a cherché autour d'elle à quoi pouvait ressembler la félicité. Elle a constaté, avec un certain soulagement, que nombre de ses amies n'étaient pas heureuses. Beaucoup se sentaient même inutiles. Leur voix ne comptait pas, on ne les consultait jamais. La seule avec laquelle elle aurait pu envisager d'échanger sa place, si on lui avait posé la question, aurait sûrement été Irène. Elle avait su rester libre et fière, malgré le joug du mariage et le poids des conventions sociales. Sa découverte met brutalement fin à des années de muette admiration. Derrière la liberté, il n'y a que le mensonge. Elle n'en revient pas. Irène n'est qu'une menteuse. Elle se sert sans scrupule d'elle et des autres invités pour se rendre à la campagne et y mener une liaison scandaleuse. La partie de chasse, un prétexte pour retrouver l'homme au chapeau, au nez et à la barbe de tout le monde. Alexandrine avance à pas rageurs dans la confusion la plus totale. Tout bouillonne en elle. Où sont passées les valeurs? Après le choc, vient la colère. Elle rentre dans le salon d'un pas trop vif et se parle à voix haute. C'est elle, l'idiote. Elle s'est trompée sur ce que doit être la vie. Elle se rend compte qu'elle a suivi docilement une voie étroite dont une autre s'est librement affranchie, et avec quel plaisir à ce qu'elle en a vu. Elle brûle de jalousie en faisant les 100 pas. Elle murmure des imprécations depuis un moment quand elle se rend compte qu'elle n'est pas seule. Elle s'arrête, interdite. Qui est là? Dans l'ombre, assis dans un fauteuil crapaud qui fait l'angle, Aimé de S, le cousin du pauvre Bruno. Alexandrine se mord les lèvres. Trop tard. Qu'a-t-il compris? Le maître lui parle. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Une urgence dans sa voix. C'est important. Il lui a demandé de prendre une chaise. Il lui a demandé de s'asseoir près de lui. Elle a obéi. Elle sent son haleine sûre. Elle observe la peau sèche des joues. La tension des balafres quand son visage bouge. Le rythme de sa respiration sifflante, de ses mots hachés. Les mots sortent vite, en vrac. C'est une nouvelle confession. Il énonce avec une certaine précipitation tout ce qui le hante. Il avoue son besoin de parler. C'est en lui depuis longtemps. Il n'a jamais trouvé l'oreille, le moment, le désir de dire et d'être entendu. Il insiste. Elle a réveillé en lui cette envie. Il suppose. Il hésite à l'évoquer. Il se lance. Il imagine que le destin s'en est mêlé, qu'elle est surtout là pour ça. Pour l'écouter, pour l'alléger, le confesser. Elle est venue jusqu'à lui, pas pour le ménage, la vaisselle, la cuisine, des prétextes. Il s'embrouille un peu. Bafouille, reprend. Pourtant, il ne veut plus croire au destin. Il ne peut pas exister de destin.